France Inter, le 18-20.
Le monde tourne mal et nous les adultes, on sait faire avec, on a pris l'habitude, on essaye le plus souvent d'épargner aux enfants les choses les plus compliquées, mais sans forcément les enfermer dans une bulle parce qu'ils entendent des choses, alors autant en parler. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Donc si vous êtes parent, vous pouvez éventuellement prêter votre portable, mais votre contribution s'arrête là. En revanche, toi qui as entre 6 et 15 ans, ou un peu plus ou un peu moins, on va pas chipoter, viens discuter avec nous, avec Jean Jouzel, qui ne va pas tarder à arriver. Il est climatologue, il peut répondre à toutes les questions sur la planète, sur le réchauffement climatique, avec Joël Veller, directeur général de l'ONG Médecins du Monde, les enfants dans le monde, les migrants, la guerre, tu peux y aller avec tes questions. Tu as forcément entendu parler aussi peut-être de ces affaires de harcèlement qui ont beaucoup occupé les adultes, mais les méchancetés sur les réseaux sociaux, la cour de récré, tout ça, les moqueries, forcément tu connais. La pédopsychiatre Anne Révalévy peut répondre à tes interrogations. Et puis François Dufour, de Mon Quotidien notamment, que tu lis peut-être, est avec nous également. Alors c'est parti, le téléphone sonne à hauteur d'enfant, c'est maintenant.
Fabienne Saintès, le téléphone sonne.
Et bonsoir Julia. Julia, tu m'entends ou pas?
Oui.
Julia, bonsoir à toi. C'est toi la première, c'est toi qui ouvre le banc, comme on dit. On t'écoute pour ta question, vas-y.
Alors, ma question, c'est pourquoi les migrants, ils viennent en France et pas à côté de chez eux? Parce que des fois, ils traversent la mer et c'est difficile.
T'as quel âge, Julia, juste par curiosité?
9 ans, rien.
9 ans et demi. Eh ben écoute, Julia, 9 ans et demi, c'est toi qui commences. Et c'est une question pour vous, ça, Joël Veller, et les autres auront le droit de répondre aussi. François Dufour, j'imagine qu'on en a parlé dans Mon Petit Quotidien des migrants. Pourquoi les migrants vont en France, mais aussi dans d'autres pays, en fait, et pas seulement à côté de chez eux?
En fait, le Haut Commissariat aux réfugiés, hein, qui est l'agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés, donc des migrants, plus de 90% des réfugiés restent dans les pays limitrophes à leur zone de départ. C'est un tout petit nombre de migrants qui arrivent en France. C'est ceux qui ont été d'abord dans des pays aux alentours des crises et des conflits. Et c'est vraiment une minorité. La plupart des gens souhaitant rentrer chez eux restent plutôt dans les pays aux alentours des conflits.
Joël Veller, est-ce qu'on peut répéter pour Julia combien effectivement de migrants sont arrivés chez nous? Combien sont en Europe? Comment tout cela circule en fait réellement?
Cette année, il y en a 120 000 qui ont traversé
François
la
Méditerranée. Dufour,
cette année, il y en a 120 000 qui ont traversé la Méditerranée. Mais si vous dites que l'essentiel des migrants récemment est parti de Syrie parce qu'il y avait la guerre, Julia, en Syrie, encore récemment, il y a encore même un peu de guerre.
Je pense qu'on peut tutoyer Julia.
Et donc Julia, les Syriens, c'est comme nous, les Français, si on était partis en Suisse, en Belgique, en Espagne, les pays juste à côté. Alors eux, ils sont allés où? Ils sont allés en Turquie. Je crois qu'il y en a environ 4 millions en Turquie. Mmh. Ils sont allés en Jordanie. Ça, je suis allé visiter un camp de réfugiés. Je peux t'expliquer si tu veux. Il y en a environ 2 millions et il y en a beaucoup au Liban. Là, j'y suis allé aussi et il y en a, disons, environ 2 millions aussi. Donc, tu vois, ça fait déjà environ 8 millions qui sont juste à côté. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent retourner chez eux. Mmh.
Et il y aura beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions de la part des tout jeunes, notamment sur le retour ou pas. Anne Révalévy, vous qui êtes pédopsychiatre, et je le rappelle d'ailleurs, chef du service de l'hôpital d'Argenteuil, ça vous interpelle aussi le genre de questions
de
Julia?
Peut-être que Julia se demande pourquoi les migrants ont l'idée qu'on peut les aider loin de chez eux. Et que comment ça s'organise quand il y a des gens en difficulté dans un monde qui est tellement ouvert, elle s'en rend bien compte, Julia, que le monde est ouvert, on entend parler de tout. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont les plus grosses difficultés? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller loin? Et comment on imagine que là-bas, très loin, peut-être on peut être accueillant ou pas accueillant? Et peut-être que Julia, elle se demande finalement pourquoi c'est si difficile d'être accueillant dans des endroits comme les nôtres qui pourraient être peut-être plus accueillants.
Et Julia, est-ce que tu es encore là?
Oui.
Julia, est-ce que ça fait partie de tes questionnements? Pourquoi ils sont chez nous, en fait, la manière dont on les accueille peut-être, est-ce que disait à l'instant Anne Révalévy?
Parce que quand on les accueille, des fois on les accueille pas. Et je trouve que nous, si on les laisse dans la rue, pourquoi ils font tout ce chemin juste pour être dans la rue?
Quand on les accueille, des fois, nous, on les accueille pas. François Dufour, elle est jolie, cette phrase de Julia.
Alors d'abord, moi ce qui me passionne beaucoup, c'est que Julia pose cette question en ayant l'impression qu'il y a beaucoup de migrants qui arrivent en France, alors qu'en fait, ce qu'on appelle les demandeurs d'asile, c'est quoi? C'est 50, 60, peut-être 80 000 cette année, sur peut-être 80 millions de réfugiés dans le monde. Donc il y a 1 sur 1000 qui vient en France. Mais les médias en parlent beaucoup et c'est peut-être pour ça. Mais sinon, Julia, il faut que tu saches qu'en fait, beaucoup de ceux qui sont en France, ils veulent surtout aller en Grande-Bretagne. Ils veulent aller en Grande-Bretagne surtout parce qu'ils ont des amis, ils ont des cousins, ils ont des gens qui ont fait le voyage avec eux et qui veulent aller retrouver. Ils savent qu'en Grande-Bretagne, ils seront bien accueillis. Et donc, il y en a en fait relativement peu qui veulent rester en France. C'était le problème de Calais, qui est tout près de la Grande-Bretagne. Et le problème de Calais demeure. Il y avait environ 3000 migrants qui voulaient aller à Calais. Et maintenant, il y en a encore environ 1000. Et tant que Calais sera tout près de la Manche, et la Manche tout près de la Grande-Bretagne, qui est une île, ces migrants voudront aller là. Donc, il y a quand même relativement peu de migrants qui partent d'Afrique ou de Syrie et qui se disent « je vais aller vivre en France ». Très, très peu.
Je voulais dire juste un dernier mot sur ce sujet. Il y aura d'autres questions hein, qui vont revenir, mais peut-être pour expliquer aux enfants qui nous écoutent ce que disait François Dufour à l'instant sur où ils arrivent en fait chez nous. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont chez nous exactement ?
Ben pas grand-chose malheureusement. La France accueille pas très bien le peu de réfugiés qui arrivent sur son territoire. Il y a un certain nombre de dispositifs étatiques hein, pour les prendre en charge, mais qui sont saturés. Alors, on accueille très très peu de gens en France. Hein. Il y a les réfugiés dont vous parliez, mais il y a aussi toute la migration. C'est compliqué, le statut de réfugié donne le droit d'asile en France. Maintenant, il y a très peu de gens, il y a quasiment personne qui arrive jusqu'en France, on va dire par plaisir. La plupart des gens fuient des zones de catastrophe, des zones... je regardais là des chiffres, il y a 50 millions de réfugiés climatiques déjà dans le monde. Il y a 700 millions de personnes qui bougent. 200 qui bougent à l'international, donc qui quittent leurs propres frontières. Il y a 700 millions de personnes qui bougent même à l'intérieur des propres pays. 200 millions qui quittent leur pays. Et très très peu qui viennent ici. Hein. On considère que la plupart de la migration se fait de pays de même niveau économique. Donc de pays, ceux qui viennent des pays en développement vont plutôt dans les pays en développement.
André Valivy, juste pour un dernier mot, on va écouter Louis dans un instant.
Je voulais dire un mot sur les mineurs qui sont en France, sur le sol français. Des mineurs isolés, souvent sans leur famille, complètement en rupture sociale, économique, historique, et qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Et je pense qu'un certain nombre de vos auditeurs aujourd'hui, les plus jeunes, entendent parler parfois dans leur environnement scolaire de ces plus jeunes qu'on a mis à l'école, qu'on essaye de scolariser, et qui vivent des situations très, très difficiles. Et ça aussi, c'est un enjeu sur l'accueil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants qui ont traversé le monde pour se retrouver dans des situations très, très difficiles.
Et on y reviendra avec d'autres questions, notamment sur la scolarisation, la scolarité. Absolument. De tous ces enfants. Bonsoir Louis.
Bonsoir.
Et sois le bienvenu dans le téléphone, ça, on est ravis de t'entendre. Joyeux Noël d'abord. Raconte-nous, quelle est ta question, ta préoccupation du soir, c'est quoi ?
Alors bah, ma préoccupation, c'était l'accident qui s'est passé à Milas avec le bus qui s'est fait couper en deux par le TER. Et donc bah, je suis au collège et donc ça m'a choqué que... Bah, qu'il y a des enfants de mon âge qui sont morts et tout.
Est-ce que tu prends les transports, toi, pour aller au collège, Louis, ou pas ?
C'est-à-dire non, mais
tu ne prends pas de bus scolaire, quoi ?
Non, mais j'ai des amis qui en prennent et donc je m'inquiète parfois pour eux.
Et vous en avez parlé, du coup ? Ça s'est passé un peu avant les vacances, dans mes souvenirs. Est-ce que vous en avez parlé à l'école, un peu, ou dans ta famille, ou pas ?
Plus dans ma famille, mais pas beaucoup à l'école, non.
Et comment est-ce que on posera la question à André Valivy dans un instant pour essayer de te rassurer, Louis, tes parents te disent quoi ?
Je sais pas trop.
Et donc t'es pas très rassuré, mais c'est à ça qu'on sert ce soir aussi, en fait. Et merci beaucoup pour ta question, André Valivy. C'est une peur normale. Il y a aussi l'idée que bah, ces images, elles sont là, elles existent. Les enfants forcément tombent dessus, les voient parce qu'elles circulent.
Ces images, oui. Dire que c'est vrai que d'imaginer que ça peut être soi-même, on a le même âge, que ça peut être ses camarades de classe. Alors après, il faut bien se rendre compte que un accident, c'est une catastrophe pour ceux à qui ça arrive, mais c'est une situation qui est rare. Et le problème de ces images images qui circulent énormément, c'est que ça donne l'impression que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui, et même que ça peut se répéter. Donc ça crée une angoisse, comme si on devenait tous soumis à une possibilité. C'est un peu comme ce qui s'est passé pour les attentats. C'est-à-dire qu'il y a un drame, et ce drame, il est potentiellement répétitif et pour chacun d'entre nous. Donc il faut essayer de se tranquilliser dans l'environnement protégé quand même. Les choses sont prises en charge, il y a pas de raison qu'il y ait d'accidents qui se répètent. Ce drame-là touche de manière massive les familles et les enfants qui ont été touchés. Et puis dans son propre environnement, on vérifie que les choses sont bien organisées, les parents sont capables de le dire. C'est aussi au milieu scolaire de porter des paroles de réassurance sur comment les choses sont organisées chez eux, s'il y a des transports, comment c'est vérifié. C'est aux adultes, au fond, de donner un certain nombre d'éléments de réalité qui peuvent permettre aux enfants de se présenter que non, il n'y a pas de raison que les choses se répètent, recommencent un peu n'importe où, de manière aléatoire, mais possible.
Et ça veut dire aussi que l'idée, c'est pas que Louis, comme d'autres, ne regarde pas ces images, ne regarde pas le journal télévisé à ce moment-là. Il vaut mieux l'avoir vu et expliquer derrière, ou faire en sorte qu'il ne le voit pas.
Alors, si vous me posez la question, je vais vous répondre. Moi, je pense que les adultes doivent limiter l'accès à ce genre d'images. Alors, c'est un peu difficile parce que maintenant, les ados entre eux font circuler tout ce qu'ils veulent et en toute liberté. Mais je pense qu'un certain nombre d'adultes autour d'eux doivent être capables de dire, ben non, ça, on regarde pas, c'est pas la peine. Ça n'apporte rien aux enfants d'être exposés de manière comme ça, toutes les heures, toutes les demi-heures, même par la radio. Ça ne leur sert à rien et au contraire, ça les fragilise, ça leur donne l'impression que c'est encore là, toujours là et que ça va recommencer. Donc c'est aux adultes de pouvoir dire là, stop, on arrête, on ne regarde pas.
Allez, Jean Jouzel nous a rejoint autour de la table. Bonsoir. Le climatologue Jean Jouzel, il y a beaucoup de questions pour vous, monsieur Jouzel, et la première c'est celle de Nilo. Bonsoir Nilo.
Bonsoir.
Et bienvenue Nilo, on t'écoute.
Je voulais vous poser cette question. Pourquoi j'ai ton temps de déchets sur Terre.
Oui, bonsoir Nilo, tu as raison, il y a un lien entre les déchets, le gaspillage alimentaire et le réchauffement climatique, en ce sens que tous ces déchets, eh bien, ce sont souvent des déchets organiques et qui produisent, qui à terme produisent soit du gaz carbonique, soit du méthane, et effectivement, le gaspillage alimentaire est quelque chose qu'il faudrait limiter au maximum, aussi bien pour la simple raison que c'est un gaspillage, mais aussi vis-à-vis de ce dont on parle, du réchauffement climatique, ça a aussi une importance. On pourrait, disons, en limitant le réchauffage, le gaspillage alimentaire et en changeant notre alimentation, on pourrait en gros gagner presque 10 à 20%, au moins 10% des émissions de gaz à effet de serre, disons, chaque année.
Et Nilo, pardon François, oui, vous allez pouvoir répondre dans un instant. Juste Nilo, moi j'ai une curiosité, toi qui as 8 ans, est-ce qu'il y a des choses que tu fais toi, à titre personnel, que tu essayes de faire pour ne pas gâcher autant, pour ne pas jeter beaucoup? Comment ça se passe chez toi?
Vas-y.
On trie les déchets et ben voilà.
Et tu penses que tu pourrais en faire plus? Allez.
Je sais pas trop, non.
Oui, mais entre trier les déchets et le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire laisser beaucoup de choses, il y a aussi... ce sont aussi deux aspects du même problème, mais qu'il est important aussi de limiter le gaspillage alimentaire, pas simplement de trier les déchets.
Voilà, Jean Jouzel est en train de te dire, Nilo, qu'il faut que tu finisses ton assiette.
Oui, voilà.
François Dufour, vous vouliez intervenir.
Je voulais poser une question d'enfant à l'expert. Est-ce que c'est vrai l'histoire des pets de vache?
Oui, alors oui, c'est vrai. Qui
réchauffe.
Bon, l'élevage au niveau planétaire, l'élevage bovin contribue à peu près à 5% de l'augmentation de l'effet de serre chaque année. En gros, le méthane qu'elles produisent, le méthane lui-même, c'est à peu près 15% de l'augmentation de l'effet de serre, mais les bovins, c'est à peu près un tiers de cela. Donc de l'ordre de 5% de chaque année au niveau planétaire, c'est vrai. Et donc ça joue sur, effectivement, notre alimentation joue sur les émissions de gaz à effet de serre.
Vous ne mangez plus de viande?
Oui, je suis pas un très bon exemple. Ce midi, la question, nous étions effectivement pour Noël tous ensemble en famille et nous avons mangé un excellent chapon, je
dis. Ce sera répété et déformé, bien sûr. Jean Jouzel, juste par curiosité, François Dufour, il y a eu beaucoup de Une de Mon Quotidien, par exemple, sur l'environnement. Ça fait vraiment partie des qui concernent les enfants, sur lesquels les enfants s'inquiètent beaucoup.
Alors, à l'âge de Mon Quotidien, c'est-à-dire 10-13 ans, oui. Le petit quotidien, 7-10 ans, pas encore. Et bizarrement, les ados, c'est-à-dire 14-18, ne sont pas très très sensibilisés sur l'environnement. C'est un peu une surprise.
Ah bon ? Et est-ce qu'on sait pour quelle raison ?
Parce que je pense qu'ils ont été enfants, et donc avant, ils étaient très défenseurs de la nature, etc. Et qu'après, ils veulent surtout s'intéresser aux injustices du monde des adultes. Et ils veulent passer à un autre sujet plus conflictuel avec les adultes.
Eh ben tiens, en parlant de sujets conflictuels au sens propre du terme, là pour le coup c'est une question de Jeanne qui habite à Bègles. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir.
Sois la bienvenue, pardon, et on t'écoute Jeanne.
Pensez-vous qu'avec des hommes politiques tels que Trump, Kim Jong-un ou Poutine au pouvoir, cela puisse entraîner une troisième guerre mondiale?
En voilà une question profonde pour
du
un 25
décembre.
Du point de vue
climat, c'est pas bien en tout cas, c'est sûr. Et le fait que si on lutte pas contre le réchauffement climatique de façon efficace, ça rend la paix mondiale beaucoup plus difficile.
Joël Veller, vous, un médecin du monde, vous avez été désigné comme volontaire pour répondre à cette question.
Pour annoncer la troisième guerre mondiale. Je sais pas si on peut parler de troisième guerre mondiale. Je pense pas qu'on verra une troisième guerre mondiale sur le même format qu'on a vu les deux premières. Mais très clairement, ces hommes-là au pouvoir mettent beaucoup de tension dans le monde. On vient de le voir avec Trump qui choisit Jérusalem comme capitale d'Israël. Poutine et le gouvernement russe qui intervient énormément sur tout le Moyen-Orient. Donc oui, ils ont une bonne part de responsabilité sur les tensions dans le monde. Voilà, je pourrais pas te dire s'il va y avoir une troisième guerre mondiale, mais il y a de plus en plus de conflits et des conflits un peu partout dans le monde de nos jours.
André Valévy, sur cette
question de la troisième guerre mondiale. Je voudrais dire à Jeanne qu'il faut pas non plus qu'on vous fasse croire à votre âge que certains hommes à eux tout seuls organisent un équilibre mondial. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, qu'il y a des personnalités en apparence qui prendrait tout le devant de la scène et serait responsable de l'ensemble de ce qui va nous tomber sur la tête. C'est pas vrai. Les choses dans l'histoire durent, s'installent sur une certaine durée. Donc là, il y a des hommes qu'on voit, qui sont dangereux, qui sont probablement peu adaptés à leurs fonctions, mais l'histoire, ça s'inscrit dans la durée. Et le passé, le présent, l'avenir, c'est pas un résumé sur 6 mois entre un Trump, un Coréen et un Russe. C'est plus compliqué que ça. Donc si on essaye de vous dire « Ah ben, à cause d'un tel et un tel, il va y avoir un drame », ben ça, c'est pas vrai, parce que l'histoire, c'est dans une histoire. Et donc là, il faut du temps avant, du temps pendant, et il y a un avenir. Et un avenir, ça se construit. Et ça se construit aussi avec des gens comme Jeanne.
Ce qui brouille les pistes peut-être pour les enfants comme Jeanne et d'autres, c'est que le temps médiatique est devenu tellement court, que les choses se résument tellement vite, que ça passe tellement vite d'un tweet à l'autre, qu'on a l'impression que la Troisième Guerre mondiale, c'est d'un coup de dé, en fait.
Mais c'est pas la réalité, et les enfants vivent dans un présent intense, les ados, les jeunes adultes, et de faire croire à tout le monde que le présent intense résume ce qui nous arrive, c'est nier le fait que ça s'inscrit dans des processus qui sont plus longs, un peu plus décalés, et que c'est cette complexité-là qu'il faut un tout petit peu expliquer pour pas terroriser tout le monde en disant « Ah, bah voilà, si demain il fait pas beau, que Trump est de mauvaise humeur, il y aura la guerre », c'est pas comme ça que ça marche.
Et en voilà une question extrêmement complexe. Bonsoir Marceau.
Bonsoir. Est-ce que les manifestations pour le fait que Trump a déclaré que Jérusalem était la capitale d'Israël, ça va durer encore longtemps ?
Eh bien, merci pour ta question, Marceau. On est dans le même ordre d'idées, finalement, André Valévy, avec la question de Marceau. Subitement, l'actualité s'accélère. Oui. On en parle beaucoup. Il y a cette espèce de frayeur qui monte. Et paf, la question de Marceau.
Oui, Marceau, tu sais, l'histoire d'Israël, du Moyen-Orient, de Jérusalem, ça s'inscrit dans des dizaines et des dizaines d'années de conflits. Donc là, M. Trump vient apparemment de rajouter une certaine forme à la mise en scène. Mais il faut pas se leurrer sur le fait que les choses aussi s'organisent autrement et peuvent aussi se modifier rapidement dans un autre sens. Donc je crois qu'il faut apprendre dès le plus jeune âge à pouvoir faire un petit pas de côté en se disant « Tiens, là, on nous montre une grande scène, mais je vais m'intéresser à l'histoire de cette scène. Et là, en essayant de comprendre ce qui se passe, je vais être capable, un, de me rassurer et sans doute d'avoir des discussions bien plus apaisées que les adultes qui sont parfois dans la caricature.
François Dufour, est-ce qu'on se risque à expliquer ce conflit dans un journal pour enfants et comment on fait ?
Oui, parce que nous, on se dit que dès qu'un enfant pose une question, il faut qu'on apporte la réponse et que tout est explicable, même si c'est compliqué. Mais je rejoins ce que vient de dire l'experte avant moi.
André Valévy.
C'est qu'il faut contextualiser. Et évidemment, plus on s'intéresse à l'histoire, plus on est bon en histoire, plus on comprend la situation en Corée, la situation de Trump, la situation
au
Moyen-Orient.
Du climat.
Oui, le climat aussi.
Alors justement, tiens, une question pour tout le monde, à la fois, qui vous concerne tous et qui nous concerne tous aussi, c'est celle d'Emmanuel qui a 15 ans. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Sois le bienvenu, on t'écoute, Emmanuel.
Je voulais savoir en quoi les adolescents peuvent-ils changer le monde aujourd'hui ?
En voilà une grosse question, Emmanuel, mais c'est bien d'y songer, ceci dit, et c'est bien d'avoir envie de ça. Joël Veller, je veux pas vous mettre mal à l'aise, mais...
J'allais y venir.
Je me suis dit, c'est trop facile d'aller demander à Jean Jouzel tout de suite. Mais après tout, vous dirigez une ONG qui s'appelle Médecins du Monde. C'est aussi une manière de changer le monde que d'essayer de sauver les gens aux quatre coins de la planète. Qu'est-ce qu'on peut répondre à notre jeune ami ce soir, Emmanuel?
Mais je crois que justement, il n'y a pas d'âge pour s'engager, il n'y a pas d'âge pour être militant, il n'y a pas d'âge pour faire attention aux autres, pour faire attention au climat, pour connaître l'histoire, justement, là, sans revenir sur Jérusalem, le conflit n'a pas commencé hier, il finira pas demain. C'est un long processus. Donc je crois qu'à 15 ans, on peut s'inscrire dans des activités de bénévolat. Il y a un certain nombre d'associations qui seront prêtes à accueillir. Il y a un certain nombre de choses à faire. Après, il y a des possibilités en fonction aussi des goûts de chacun. C'est que ce soit plus sur le climat, que ce soit plus sur le travail social, sachant que tout ça est lié. Hein.
Jean Jouzel, c'est pour vous.
Oui, je pense qu'on peut s'engager aussi bien dans sa vie de jeune citoyen. Il y a beaucoup de choses à faire pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi dans sa vie professionnelle. C'est quand même cette génération de jeunes, ta génération, qui va être, disons, porteuse du changement de mode de développement que l'on appelle de nos voeux et qui est nécessaire si on veut limiter le réchauffement climatique. Donc c'est, je crois, assez enthousiasmant pour ta génération. C'est beaucoup d'inventivité, de recherche, voilà. Et j'engage aussi les jeunes d'aujourd'hui à vraiment prendre les rênes de cette... de ce changement qui est nécessaire, en tout cas pour beaucoup d'autres raisons aussi. C'est beaucoup de solidarité, beaucoup d'engagement, et dans ta vie professionnelle si tu es intéressé, mais aussi dans ta vie de citoyen, bien sûr, tous les jours.
Emmanuel, on va donner la parole à André Valévy dans un instant. Emmanuel, juste une curiosité juste avant. Est-ce que déjà tu t'engages ? Est-ce que tu es volontaire quelque part ? Est-ce que ça te donne envie ? Est-ce que tu as envie de le faire ? Ou pour l'instant tu hésites ?
Pour l'instant j'hésite. J'hésite un peu, mais j'écoute des émissions, je regarde des documentaires pour savoir un peu comment faire.
Et qu'est-ce qui t'intéresse réellement ? Vers quoi t'aurais envie d'aller comme ça, même si tu sais pas encore très bien et que c'est un peu confus toujours dans ta tête ?
Le climat ou la politique.
On peut faire les deux en même temps.
Voilà. L'un ne va pas sans l'autre, l'un ne va jamais sans l'autre. D'ailleurs, André Valévy, vous vouliez intervenir.
Oui, je pensais que avant de chercher forcément un objet de militantisme et une volonté vraiment d'engagement, on peut essayer d'être vigilant autour de soi. Et parce qu'il y a moi je crois que le militantisme, ça commence par l'apprentissage d'une certaine manière d'être avec les gens qu'on côtoie tous les jours dans son milieu scolaire. L'école est un endroit où il peut y avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de violences subies, beaucoup d'enjeux, et d'apprendre à regarder ses camarades de classe, à faire attention à ceux qui sont les plus fragiles, à faire attention à ceux qui ont besoin qu'on les protège d'un certain nombre, peut-être même de harcèlement. Pour moi, c'est déjà un acte qui est une ouverture possible vers du militantisme. Mmh. On n'est pas obligé de s'engager pour des missions Médecins du Monde, c'est très bien, le climat c'est très bien, la politique c'est très bien, mais parfois un premier cercle d'engagement, c'est déjà un acte, et ça peut ouvrir vers un acte politique plus tard. Mmh. Mais autour de soi, c'est déjà un acte.
C'est ça, on n'est pas obligé de déplacer tout de suite des montagnes, d'abord parce que c'est difficile quand on a 15 ans, mais allez savoir où ça nous emmène. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Tu as 13 ans, Raphaël, une grosse voix déjà, oui. Raphaël. On t'écoute, vas-y.
Je voulais savoir pourquoi on passe autant de temps sur des faits divers comme par exemple l'accident de bus à Moscou alors que bah, ça se passe pas en France et ça ne nous intéresse pas forcément. Il y a des trucs plus importants qui se passent dans le monde.
Comme quoi par exemple en ce moment, qu'est-ce que tu penses qu'on aurait dû dire et qu'on n'a pas dit, y compris dans le journal de France Inter juste avant nous?
Après, par exemple l'affaire en Palestine, je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde.
Alors, on a parlé des deux. Hein. Enfin, moi, je veux pas défendre particulièrement.
Après, la Russie, c'est loin de nous. Les accidents de bus, ça se passe tous les jours. Il y a des accidents qui font des morts sur la route tous les jours. Et ben, je sais pas pourquoi on parle de ça aujourd'hui, alors que il y a des choses plus graves qui se passent dans le monde.
Ben, moi, je vais t'expliquer. On donnera la parole à François Dufour dans un instant, mais je vais t'expliquer. Là, pour le coup, puisque la journaliste au milieu de ça, c'est moi, on en parle de l'accident de bus parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents un peu similaires ces derniers temps et que la question qu'on se pose dans ces cas-là est de savoir si c'est réellement un accident ou s'il y a un acte terroriste derrière. Donc, dans ces cas-là, on dit et on explique, ce qui permet aussi, justement, de fermer la porte, y compris d'ailleurs à un certain nombre de fantasmes qui pourrait y avoir. Et en même temps, cette difficulté entre les infos de proximité et les infos lointaines, je peux comprendre dans ce que tu es en train d'essayer de nous expliquer, Raphaël. Comment on explique ça, François Dufour, cette hiérarchie de l'info, c'est le cas aussi dans mon quotidien et dans le petit quotidien. Pourquoi on s'intéresserait à la Russie alors qu'il se passe des choses chez nous? Pourquoi plus la Palestine qu'ailleurs? Ça aussi, ça vous concerne.
Oui, alors c'est vrai que c'est la question qu'on se pose tous les jours devant la feuille blanche du petit quotidien ou mon quotidien ou de l'actu. Nous, on essaye deux choses. On essaye d'abord d'équilibrer le lourd et le léger, parce qu'il est évident qu'on peut trouver tous les jours des morts de plein de choses, naturelles, accidents, sida, etc., etc. On pourrait mettre des morts à toutes les pages et dans des gros articles, dans ce qu'on appelle les brèves, les petits articles. Et donc, on essaye toujours d'équilibrer avec des infos, des inventions, des découvertes, des gens qui ont fait des choses formidables, etc. Et l'autre chose, mais ça, c'est quelque chose qu'il est difficile de comprendre pour ceux qui sont pas journalistes, c'est qu'en fait, on demande aux journalistes plutôt de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure, plutôt que des trains qui arrivent à l'heure. Et du coup, les journalistes ont tendance à être négatifs, et il faut que nous, en tant que journalistes, je pense qu'on lutte contre ça. Et là, on vient de faire l'exercice sur les grands événements de l'année. Évidemment, quand on prend les grands événements de l'année, alors on met le scandale Weinstein aux États-Unis, la Corée du Nord, etc., etc. Et puis, parce que ça, c'est des événements, mais on pense moins aux phénomènes. Et un phénomène, par exemple, c'est qu'il y a encore eu une forte baisse de la pauvreté dans le monde cette année. Mais comme c'est pas un événement, qu'il n'y a pas une photo, qu'il n'y a pas un leader, bah, on n'en parle pas. Et au fond, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important.
André Valévy.
Oui, moi je pense qu'il y a une thématique dont les journalistes ne parlent pas assez, c'est tout l'apprentissage délicat des relations filles-garçons. Et je dis ça parce que ce qui est arrivé là autour
des histoires de harcèlement,
c'est-à-dire qu'il était temps que la parole se libère, mais je crois qu'il faut, quand on s'intéresse aux plus jeunes, pouvoir repositionner les enjeux autour de bah, c'est quoi une relation entre une fille et un garçon, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe quand on veut avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, qu'est-ce que c'est le consentement quand on a 15 ans, 17 ans, comment ça se construit, comment on apprend à percevoir que l'autre dit oui ou l'autre dit non, ben ça c'est un vrai sujet. Et moi je trouve que le système qui consiste à ramener la guerre, la menace en permanence, c'est un système qui se tient beaucoup trop à distance de ce que les sujets jeunes ont besoin d'apprendre pour qu'une société fonctionne dans le respect. C'est bien la différence dans les relations filles-garçons.
Et j'espère qu'on y reviendra. J'ai vu apparaître une question qui a disparu immédiatement. J'espère qu'on reviendra effectivement sur ce sujet, ce qui se passe dans la cour de l'école autour de ces questions-là, et peut-être comment les enfants ont réagi autour de ces affaires Weinstein qui nous ont fait beaucoup discuter, nous les adultes, mais on ne sait pas très bien comment ça arrive jusqu'à la cour de l'école. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir.
Tu as 12 ans Mathilde, et on t'écoute, vas-y.
Quelles sont les actions humaines, comme le transport ou c'est le chauffage, qui causent le plus le réchauffement climatique?
Jean Jouzel, qui est responsable le plus?
Oui, j'essaie de te répondre. En France, quand on regarde alors les émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine du réchauffement climatique, une partie, les trois disons, contributions les plus importantes, ce sont l'énergie elle-même et le transport, et puis ce qu'on appelle le domestique, tout ce que tu fais chez toi, bien sûr, se chauffer, mais aussi utiliser les appareils électriques, électroniques, électroménagers, et puis l'alimentation également, mes transports et donc c'est là-dessus aussi qu'on peut gagner en efficacité énergétique. On voit bien là où on doit faire les efforts. Ça représente plus de 60% des émissions en France quand on parle de transport, mobilité, alimentation.
Et Mathilde, je voudrais te poser la même question que un précédent tout à l'heure jeune auditeur dont j'ai oublié le prénom, peut-être Emmanuel. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais toi dans ta vie de tous les jours, Mathilde, pour aider l'environnement? Est-ce que tu fais plus attention à un certain nombre de choses? Est-ce que tu demandes à tes parents de faire attention à un certain nombre de choses ou pas?
Oui.
Comme quoi, par exemple?
Pas de douche inutile, je prends pas trop de bain, enfin j'essaie d'économiser l'eau.
Ouais, et c'est déjà ça?
Oui.
Ouais.
Et les déchets, peut-être, tu fais attention à trier comme il faut.
Les déchets.
Merci beaucoup Mathilde pour ta question. Il y en a une à la suite pour vous Jean-Jouzel, c'est celle d'Alexandre, il a 12 ans sur franceinter.fr. Il dit, comment peut-on utiliser une énergie qui ne pollue pas? Est-ce qu'on a trouvé la clé de l'énergie qui ne pollue pas?
L'énergie qui pollue, ce terme de pollution, elle a double sens. La pollution, par exemple en ville, et on voit bien par exemple des villes comme Pékin, par exemple, ou Delhi, l'utilisation du charbon est source de pollution. Pollution, mais celle qui nous intéresse, pollution au sens trivial du terme, celle qui nous intéresse plus, c'est assez invisible, c'est le gaz carbonique, et évidemment, c'est à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, on en produit, qu'on fabrique du ciment, et donc les énergies qui ne produisent pas de gaz à effet de serre, qui ne produisent pas de gaz carbonique, donc il y a l'énergie nucléaire, il y a aussi un débat sur l'énergie nucléaire, mais il y a aussi beaucoup toutes les énergies renouvelables, quand on parle de solaire, d'éolien, de géothermie, d'hydroélectricité, mais aussi d'énergie marine, d'utilisation du bois, par exemple, de la biomasse, tout cela. Donc il y a beaucoup de façons de produire de l'énergie de façon non polluante par rapport au climat. Voilà.
Joël Veller, Lucille a 11 ans, elle voudrait revenir sur le sujet qu'on a abordé tout à l'heure en début d'émission. Je voudrais savoir pourquoi en France on n'arrive pas à accueillir mieux les réfugiés. Il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup d'habitants et donc il y aurait de la place pour les accueillir.
Alors oui, il y a de la place en France pour accueillir. Après, accueillir, c'est pas juste trouver un logement, et c'est l'accès aux services, l'accès aux soins. Là, on parlait des enfants, mais l'accès à l'école. Donc c'est pas forcément d'accueillir les gens en pleine campagne. Mmh. C'est vraiment un effort national de l'État pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les enfants et les adultes qui se rendent sur le territoire.
Est-ce que ça fait partie des choses qu'on regarde s'il y a une mairie, effectivement, parce qu'on sait qu'il y en a un certain nombre qui ont été désignés, qui voilà, ici il y aura 60 ou 70 personnes. Est-ce que la première chose qu'on regarde, c'est oui, mais est-ce que l'école est possible? Dans quelles conditions? Est-ce que les soins sont possibles? Est-ce que ça fait partie des choses qui déterminent les lieux?
Oui, et puis l'idée, c'est qu'il n'y ait pas forcément 25 000 personnes à Calais, mais plutôt un accueil qui est réparti sur le territoire. On parlait de Calais tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a la vallée de la Roya, qui est à la frontière entre la France et l'Italie, où il passe 300, 400 personnes chaque jour.
Allez-y.
Juste un mot quand même là-dessus.
Joël Veller, je vous en prie.
Non, non. On a quand même, parce que c'est important, et ça se passe chez nous, même si ça vient de loin. On estime, là, cette année, qu'il y a 25 000 enfants, qu'on appelle les mineurs non accompagnés, qui sont des migrants, voire des réfugiés, qui sont là sans être accompagnés et qui aujourd'hui sont pas tous pris en charge. Les enfants que vous pouvez voir dormir dans la rue, qu'on voit partout aujourd'hui, en tout cas sur Paris, allez vous balader à la chapelle, à la porte de la chapelle, ils sont pas tous majeurs. Donc il y a un devoir de l'État d'accueillir ces gens-là, et c'est même pas du bon sentimentisme. Mmh. C'est un devoir de l'État français qui a signé un certain nombre de conventions. On est un État qui a signé des accords mondiaux qui doivent être appliqués.
André Valévy, vous vouliez intervenir?
Oui, il y a la politique, mais pour répondre à cette jeune auditrice, en fait, la politique organise des choses, mais c'est soi comme sujet, on peut aussi changer les choses. Donc elle peut apprendre dès à présent.
Lucille.
Lucille, elle peut apprendre qu'est-ce que c'est d'accueillir, qu'est-ce que c'est un autre très différent, très pauvre, qui ferait peur à beaucoup de gens, mais qui en fait est un être humain exactement comme elle et qui va bien falloir accueillir. Et ça se construit, et ça se construit auprès des plus jeunes d'entre nous.
Tiens, on parlait de harcèlement tout à l'heure. Il y a cette question question que j'ai vue apparaître, disparaître, et puis la revoici sur franceinter.fr, c'est celle de Gérard, qui habite à Lyon. Je voudrais parler de harcèlement, dit-il. Tous les après-midi, quelqu'un veut que je lui montre la photo de mon chien. Mes copains aussi sont harcelés tous les après-midi. Compliqué pour Gérard qui se sent attaqué en fait tous les jours sur le chemin de l'école.
Si tu es
Gérald, je suis pas
Gérald,
sûr.
Je ne sais pas quel âge a ce jeune auditeur.
Et ben moi non plus.
La vraie question du harcèlement, c'est où sont les adultes? C'est pas à lui de se débrouiller tout seul avec quelqu'un qui le harcèle tous les jours. C'est pas aux camarades de se débrouiller tout seul. Il y a des adultes à l'école, il y a des parents. Si pas des parents très disponibles, il y a peut-être des grands frères, des grandes sœurs un peu plus à l'aise avec tout ça. En tout cas, en milieu scolaire, il y a des profs.
Il a 10 ans, me dit-on.
Il a 10 ans.
Et donner une indication.
Il y a sûrement des parents. Et c'est aux parents qu'il faut parler. C'est à eux d'arrêter tout ça. Il y a des procédures à faire. On parle au milieu scolaire. Éventuellement même, on porte plainte si ça continue. Les enfants ne peuvent pas se débrouiller tout seuls dans le harcèlement.
Élise, tu as 12 ans, c'est toi la dernière auditrice ce soir. Sois la bienvenue, on t'écoute Élise.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, alors ma question c'était pourquoi les réseaux sociaux rendent addictifs?
Et toi, tu te sens pas très addict alors Élise? Tu arrives en tout cas à ne pas y rester trop longtemps, c'est ça l'idée?
Oui.
Bon, et tu le fais volontairement ou est-ce que c'est tes parents qui t'obligent à fermer l'ordinateur, la tablette ou le portable?
Alors là, parfois, il y a mes parents qui interviennent.
Ah bah ouais, on imagine bien. Et au bout de combien, juste par curiosité, au bout de combien de temps, t'as le droit à combien d'ordinateurs par jour, par exemple?
Moi, c'est pas trop l'ordinateur que j'utilise, c'est le téléphone.
Ah, t'as le droit à combien de téléphones?
Mais alors, les jours de la semaine, du lundi au vendredi, j'ai le droit à 30 minutes. Et le week-end, à 1 heure.
Eh ben écoute, comme ça au moins c'est clair et c'est bien établi. André Valivilla aussi, les parents.
Les parents doivent réguler tout ça, c'est-à-dire que le plaisir du téléphone et de l'ordinateur, des réseaux sociaux, c'est d'être en relation avec quelqu'un. Et ça, c'est un bonheur, quel que soit l'âge, on aime être en relation. Et les réseaux sociaux donnent l'impression que les relations sont beaucoup plus faciles, qu'il y en a beaucoup plus, que c'est plus intense, donc il n'y a pas de raison de s'en priver apparemment. Sauf qu'en effet, on peut plus s'arrêter et que les vraies relations, la plupart du temps, elles sont quand on voit les gens, quand on leur parle, pas quand on est juste derrière un écran. Donc il faut essayer de continuer à aimer les relations, mais en trouvant d'autres sources possibles, pas que les réseaux sociaux.
François Dufour, ce sera le mot de la fin.
Moi, je rappelle
avec vous.
Qu'on n'a pas le droit d'aller sur Facebook si on n'a pas 13 ans.
Alors déjà, mais en même temps, il y a du courrier des lecteurs dans mon quotidien ou pas? Ce que je veux dire, c'est qu'on vous parle pas seulement en envoyant des tweets et en envoyant des messages, j'imagine qu'on vous écrit aussi. Preuve que bonne vieille méthode fonctionne toujours, y compris chez les plus jeunes.
Oui, oui, on nous pose des questions, et notamment pour la dernière page de mon quotidien, qui est tous les jours une question que pose un enfant. C'est souvent sur l'actualité, mais c'est drôle parce que cette question que Mathilde vient de poser a été posée, donc on vient de la traiter dans mon quotidien.
Et ben voilà, comme quoi on aura bouclé la boucle. Merci beaucoup, merci mille fois à tous. C'est Noël aujourd'hui, merci d'avoir fait le trajet jusqu'à France Inter, merci d'avoir répondu aux questions des enfants. Très nombreuses questions d'ailleurs, du coup ben on recommencera à l'occasion. Passez une bonne soirée, joyeux Noël.